Alors Michel, pour cette deuxième partie, on reste un peu dans un sujet relativement identique, les déserts médicaux qui se répandent en France et évidemment chez nous aussi.
Chez nous en particulier et j'allais dire aux portes de Narbonne. J'ai été en fait interpellé par un de nos auditeurs qui est directement impliqué dans ce centre sur tout simplement le centre de, je parle du centre médical de Marcorignan. Hein, tout simplement parce que sa vie en fait, est en suspens. Si on ne trouve pas une solution pour résoudre les problèmes liés au coût de fonctionnement de ce centre va disparaître. Alors, deux points. Il faut quand même savoir que ce centre, aujourd'hui, c'est 5 médecins et 3 secrétaires.
Oui, et en zone rurale, on va dire.
Marcorignan, c'est le port d'Arbonne. Et la zone de clientèle, c'est en gros, quoi. Hein, Marcorignan, Moussan, Névian, Paraza, Saint-Marcel.
Oui, c'est déjà une population assez importante, quand même.
Ce centre médical fait à peu près un chiffre d'affaires entre 600 et 700 millions d'euros. Pardon, 600 000 euros. Entre 600 et 700 000 euros par an. 5 médecins, 3 secrétaires, 700 000 euros par an. Le médecin, un des deux médecins propriétaires du bâtiment, part à la retraite au mois de mars. Son collègue part aussi. Les trois autres médecins ne peuvent pas rester dans ce centre pour pouvoir le faire fonctionner correctement, eu égard aux frais de fonctionnement induits par ce genre de...
Donc, solution, bon, qu'est-ce qu'il y a ?
Solution.
Les collectivités locales ?
Solution. Il y en a... Alors, j'ajoute quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que juste à côté de ce centre médical, il y a une pharmacie. Et qui dit disparition du centre,
dit problème sérieux,
pour la pharmacie à côté. Ouais. Ben, c'est une des rares petites zones d'activité dédiées à la santé.
C'est un pôle.
C'est pas rien du tout. Hein, bon, c'est pas rien. La solution pour ça, effectivement, c'est pas compliqué. Enfin, il n'y en a pas 36. Soit l'agence régionale de la santé déclare la zone déficitaire en médecins, ce qui permet pour nos auditeurs se rendre compte de ce que ça signifie, ce qui permet effectivement de recruter un médecin sortant de l'école, si je puis dire, qui a l'obligation pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans, mais peu importe, par un temps relativement important, d'exercer dans une zone déficitaire. Procédure lancée par les propriétaires du centre, qui dure depuis des mois, qui, on ne sait pas d'ailleurs où elle est, enfin, bref, c'est le foutoir. Deuxième solution, effectivement, prise en charge, rachat par les collectivités, ou par la collectivité de Marcorignan, du bâtiment, avec ensuite des subventions du département, de la région, comme cela se fait habituellement pour une entreprise industrielle, et location dans la foulée, aux médecins qui resteraient, à un prix, évidemment, à une location bonifiée par le montant des subventions, etc.
Comme ça
se passe à pas mal d'endroits. Sauf qu'aujourd'hui, là aussi, du côté des collectivités, c'est le silence total. Donc on est dans une situation là. Alors, j'en parle aujourd'hui parce que nous avons l'opportunité de le faire savoir à notre conseiller général, en fait, qui est M. Sainte-Cluque, et pour que les élus en charge au département de ces questions s'emparent du dossier. Nous sommes là confrontés à une situation très concrète, aux portes de Narbonne, où si rien n'est fait dans les mois qui viennent, eh bien, tout simplement ce centre va disparaître. La pharmacie à côté aura de sérieuses difficultés. Les conséquences sur la commune en impôts locaux, etc., je ne vais pas évaluer, mais elles sont certaines. Mais surtout, les conséquences pour les patients du coin sont particulièrement importantes.
Pour
à Narbonne, les médecins s'installent maintenant à la périphérie de la ville, il y a de moins en moins d'envie. Enfin, bref, je ne fais pas un dessin. Voilà pourquoi je tenais à parler de ce sujet.
Qui n'est pas particulier à notre ville,
qui concerne beaucoup de secteurs dans notre
mais
pays.
Qui est concret...
Mais qui, là, du coup, aux portes de Narbonne, devrait, me semble-t-il, interpeller les élus considérés, dont les maires de Marcorignan, Névian et de Moussan, sont aussi conseillers communautaires.
Voilà. Bon, le cri d'alarme est lancé, en tout cas. Deuxième sujet pour terminer. On va peut-être revenir là-dessus avec notre conseiller départemental, Nicolas Sainte-Cluque. Mais pour terminer cette deuxième partie du sommaire, Michel, tu veux revenir sur l'élection de Monsieur Pi, Michel Pi, à la vice-présidence de l'agglomération du Grand Narbonne, les laissée vacante par la démission de M. Alain Perea.
Oui. L'élection de Michel Pille était courue d'avance, hein, c'est clair. Donc c'est pas dans le billet que j'ai fait sur mon blog, c'était pas la question que je posais, quoi. Hein.
Mais tu soulevais quelques incertitudes, quand même.
Non, je soulevais, en fait, je disais, ce qui serait intéressant d'analyser, c'est le résultat du vote. C'est sur ce quoi je vais effectivement venir. Hein. Parce que Michel Pille, s'il avait bénéficié de toutes les voix du groupe majoritaire de
Edouard Rocher.
De Jacques Mascou.
Oui, de Jacques Mascou.
Et de la totalité des voix du groupe auquel il appartient, Michel Pille, c'est-à-dire le groupe Martin, et autres, aurait dû avoir 37 plus 10, 47 voix.
Donc il y en a quelques-unes qui se sont...
Il en a eu 42. 42. Quand on sait que Nouveau-Narbonne a, lui... je parle du groupe Nouveau-Narbonne, le groupe de Mouly, d'après mes calculs, et qui repose sur des calculs d'une personne directement impliquée dans ce vote, à peu près une dizaine de voix. Ça veut dire que, au total, mine de rien, il y a 5 voix, un peu plus de 5 voix du groupe de Jacques Bascou, et de Martin, qui sont partis un peu dans les ailleurs. Alors peut-être pas forcément sur M. Subardi, ça m'étonnerait, quoi. Mais probablement du côté des abstentions, ou que sais-je, quoi.
Voilà.
Donc, et c'est ça qui me paraissait intéressant de noter, effectivement, dans ce vote, dans ce vote de Michel Pille, plutôt que son élection qui me paraissait aller de soi. Pourquoi elle me paraissait aller de soi? Parce que
oui,
Jacques Bascou...
arithmétiquement.
Parce que Jacques Bascou n'avait pas le choix. Jacques Bascou savait très bien qu'il ne pouvait pas présenter un candidat de son groupe, il aurait été battu. Mathématiquement, il était battu, bon, point.
Oui, deux. Par les deux autres groupes.
Donc, quelles étaient ces deux autres options? La deuxième, c'était de dire, on va faire des économies de gestion, donc je vous propose de supprimer purement et simplement un poste de vice-président, puis terminé, qu'on n'en parle plus.
Pas
quoi.
D'économie.
Pas d'économie. On n'a pas voulu faire le choix. Et la troisième option, c'était, comme je dans mon billet... La troisième option, c'était effectivement de faire un deal. Avec la mairie de Narbonne et Didier Mouly.
Ah oui,
parce qu'il y a un dysfonctionnement manifeste, on en a souvent parlé ici, entre la ville-centre et l'agglo. Et dire en gros, Didier Mouly, Jacques Bascou, écoute Didier, on se met d'accord, pendant les deux ans qui viennent, on fait la paix, donc on met le passif de côté, on se projette sur les deux ans qui viennent et sur les dossiers qui nous concernent les deux ans qui viennent, et puis toi du budget, et moi je te propose. C'était la troisième option.
Ça aurait été spectaculaire.
Sauf que une troisième option qui aurait mis sérieusement en difficulté ses anciens amis socialistes qui sont au conseil municipal de Narbonne et qui du coup ont été piégés, pour être un peu vulgaire, dans la nasse.
Voilà.
J'ajoute à la réaction, pour terminer ce billet quand même, j'ajoute que la réaction sur les réseaux sociaux tels que j'ai pu l'observer dans les constater sur Facebook et autres, du côté des militants socialistes purs et durs, et particulièrement violente. Hein. J'ai lu des choses d'un style, il n'y a plus de conviction, la gauche, les socialistes votent maintenant pour Pille, et en même temps, ils nous disent que Macron, c'est un homme de droite, alors que maintenant, eux, ils votent pour un homme de droite à la gauche, on ne comprend plus rien. Première remarque. Deuxième remarque, sur ce sujet, j'ai observé que la conférence de presse qui a été donnée par Jacques Bascou juste avant cette élection, pour dire mon candidat, c'est Michel Pille. Il y avait à côté de lui Édouard Rocher, le président du groupe radical et macroniste de la première heure, qui a fait tomber Marine Fabre, socialiste. Qu'il y avait Guillaume Heras, macroniste de la première heure, et qui lui aussi a voté Perea et a tout fait pour faire tomber la candidate socialiste. Et qu'il y avait M. Kerfrizer, le maire d'Armessan, d'hiver droite. Et je n'ai pas vu un seul conseiller.
Voilà, donc tu as vu le symbole.
J'ai vu un symbole très significatif, parce qu'en politique, tout est symbole.
Oui, voilà.
Et quand on fait ce genre de conférence, qu'on la projette comme cela, c'est pas neutre.
Okay.
Et j'ai tendance à me dire... Alors, ce que j'ai fait observer à certains amis socialistes, c'est qu'ils avaient oublié que Jacques Bascou ne l'était plus, socialiste.
Voilà, c'est peut-être ce qui va nous servir de conclusion à cette deuxième partie. Et nous marquons une pause, après quoi nous retrouverons notre invité du jour, Nicolas Sainte-Cluque.